Décryptage. Anne Corpet.
Lundi dernier, la France a été condamnée par le Comité contre la torture de l'ONU parce qu'elle laisse certains de ses ressortissants croupir dans les camps de prisonniers au nord-est de la Syrie. Cette résolution non contraignante s'ajoute à celle de la Cour européenne des droits de l'homme et à celle du Comité des droits de l'enfant de l'ONU qui ont déjà déploré le sort des familles françaises détenues en Syrie. Il s'agit des proches de djihadistes qui ont fait le choix de quitter le territoire pour aller combattre dans les rangs de l'État islamique en Irak et en Syrie. Certaines de ces femmes se sont elles-mêmes illustrées dans les rangs de l'organisation terroriste. Le gouvernement a organisé deux voyages de retour groupés en juillet et en octobre dernier et a permis à 75 enfants et 31 femmes de revenir dans l'Hexagone. Mais environ 150 mineurs et 70 femmes de nationalité française sont toujours maintenus dans le camp de Roj, au nord-est de la Syrie, selon une avocate qui défend ses familles. Muriel Paradon, journaliste à RFI, s'est rendue sur place. Nous la recevons ce soir dans Décryptage. Bonsoir Muriel Paradon.
Bonsoir Anne.
Vous êtes donc journaliste au service international de Radio France Internationale et il y a 8 jours, vous étiez dans ce camp de Roj où sont détenus des femmes et des enfants français.
Allô ma mère.
On entend, c'est l'ambiance que vous avez enregistrée sur place. On a entendu « Elle est où ma mère ?» d'un enfant. À quoi ça ressemble ce camp de Roj ?
Mais ça semble à un camp de réfugiés au milieu d'un désert de pierre. On est dans le nord-est syrien, sous contrôle des forces démocratiques syriennes, à majorité kurde. Vous savez, celles qui ont lutté contre l'État islamique avec la coalition internationale et qui aujourd'hui détiennent beaucoup de djihadistes étrangers, dont ces Français. Donc un camp avec des tentes faites de bâches, quelques blocs de béton qui servent de sanitaire ou de petite cuisine. Il y a un marché également où on peut acheter à manger, même si des ONG apportent des aides. Les femmes et les enfants peuvent se déplacer librement dans ce camp, mais elles ne peuvent pas en sortir. C'est pour ça qu'on parle de prison à ciel ouvert. Et elles se plaignent des conditions spartiates, difficiles dans lesquelles elles vivent. Effectivement, il fait froid en ce moment, c'est l'hiver, et puis l'été, il fait très chaud.
Mais il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a du chauffage, vous parlez du froid.
Oui, alors il y a des petits chauffages, mais qui sont un peu dangereux, c'est à l'huile, donc ça peut exploser un peu à tout moment, et puis si c'est mal réglé, on respire mal. De l'eau, il n'y a pas d'eau courante, il faut aller chercher l'eau, mais il y en a quand même. Et puis il y a de l'électricité, puisqu'on a vu qu'il y a des télés, les enfants peuvent regarder la télé sous les tentes, avec des satellites. Donc les conditions sont spartiates, difficiles, c'est vrai, elles ne sont pas aussi difficile que dans d'autres camps de détention ou dans les prisons en Syrie.
Alors justement, vous étiez allé dans un autre camp, c'est le camp de Al-Hol. Vous y étiez il y a un an et demi et c'est dans ce camp de Al-Hol où étaient un certain nombre de ces femmes et de ces enfants auparavant. Et là, les conditions sont bien plus dramatiques.
Oui, là, il y a 50 à 60 000 personnes encore là-bas. Ce sont des majorités de Syriens et d'Irakiens, des déplacés de guerre, mais aussi des gens qui ont collaboré ou qui ont été associés à l'État islamique. Il y avait une partie réservée aux femmes étrangères, mais a priori, toutes les femmes françaises ont été rapatriées sur Roj, d'après ce qu'on sait, ou la majorité d'entre elles. En tout cas, là-bas, effectivement, les conditions sanitaires sont déplorables, les conditions sécuritaires sont terribles, il y a des morts tous les jours. Quand on y était allé, on nous avait dit « Vous pouvez aller tourner à l'entrée du camp où il y a le petit marché, où il n'y a que des femmes, mais surtout, ne vous aventurez pas dans les tentes, parce que c'est très dangereux. Il y a effectivement des meurtres tous les jours. Là-bas, les gardes kurdes se baladent sur des pick-up, ils sont armés, ils ont des gilets pare-balles, ils sont cagoulés pour essayer de rétablir l'ordre dans ce chaos, parce que c'est un terreau, il y a encore des cellules de l'organisation État islamique qui sont là-bas et qui peuvent effectivement représenter un danger. On le dit assez souvent, c'est une sorte de mini-califat.
Et alors, est-ce qu'à Roj, vous étiez il y a 8 jours, c'est militarisé? Est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières aussi?
Alors, ce n'est pas du tout la même ambiance, c'est plus petit, plus calme. Les gardes kurdes, qui sont des femmes, nous accompagnaient, il y en avait une qui nous accompagnait, n'était pas armée. Alors, il faut quand même avoir des autorisations pour y aller. On ne peut pas y rentrer comme ça. Il y a des gardes à l'entrée, en effet. Et puis, on a des contraintes. En tant que journaliste, on demande à voir certaines personnes. On ne peut pas toujours voir qui on veut. On a un temps limité, mais qui nous est dit souvent après. Et les interviews se font sous l'œil, effectivement, de ces gardes kurdes. Donc, elles ne sont pas complètement libres.
Alors, on estime qu'il y a environ 200 ressortissants français dans ce camp. De qui s'agit-il ?
Alors, ce sont des femmes, femmes djihadistes ou femmes de djihadistes. C'est difficile un peu à faire la différence, mais en tout cas, ces femmes qui ont choisi de quitter la France pour rejoindre une organisation terroriste, et elles sont avec leurs enfants. Il y a beaucoup d'enfants, une majorité d'enfants. Et puis, il y a encore des orphelins qui ont perdu leurs parents dans les bombardements, surtout à Barouz. C'était le dernier réduit de l'État islamique. Des orphelins ou des mineurs isolés qui n'ont pas été rapatriés en France, alors que la France en faisait une priorité dans sa politique du rapatriement au cas par cas.
Alors justement, vous avez rencontré l'une de ces jeunes isolées. Elle a 16 ans et elle reste anonyme. On l'écoute.
Ça fait presque 3 ans que je suis dans le camp. Ouais, presque 4 ans. Avant, j'étais à Hall.
Qui est un autre camp, hein.
Ouais.
D'où tu venais?
Bon, on est sortis de Barouz. Je suis sortie seule. Après, ma sœur est sortie après moi. Ma mère est morte là-bas. Avec mes deux petits frères. Ouais, les bombardements.
Et en France, vous avez encore de la famille?
Oui, on a de la famille. La famille de notre mère, nos grands-parents et nos tantes.
Et qui vous attendent?
Ouais, je pense.
Cette adolescente, elle a passé donc une partie de son enfance sous le règne du califat de l'EI. Et puis il y a 4 ans, donc à l'âge de 12 ans, elle a vécu la chute de Barouz, bombardée par la coalition internationale. Il y a de quoi être lourdement traumatisée. Elle a une petite voix. Quelle impression elle vous a donnée?
Oui, traumatisée. Elle a vu sa mère et ses frères mourir. Elle a l'air un peu perdue, c'est clair. Elle était avec sa sœur de 14 ans, elle qui ne s'est pas exprimée. Pour l'instant, elles n'ont pas été rapatriées ni en France où vit la famille de la mère, ni au Maroc, parce qu'elles ont leur père au Maroc. C'est un peu compliqué de dénouer les fils de cette histoire, mais en tout cas, elles vivent là. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'elles vivent sous l'attente d'une Française dans ce camp de Roj, qui est connue pour être radicale. Elle n'a pas souhaité se présenter à nous donner son nom, mais nous l'avions rencontrée auparavant. Effectivement, c'est une femme radicalisée et qui, lors de cet entretien, a obligé les filles à se voiler intégralement, alors que nous n'étions que des femmes sous la tente, avec la garde kurde. Et elle semblait exercer effectivement une sorte de pression sur les filles pour les inciter à dire qu'elles ne voulaient pas rentrer en France et à rejeter la France, finalement.
Et ces mineurs isolés, elles vivent sous tente aussi, mais avec des adultes ou comment ça se passe? Elles sont avec cette femme, justement?
Oui, elles sont effectivement recueillies et elles sont passées de tente en tente avec différentes adultes, étrangères aussi. Et là, en tout cas, ces derniers temps, quand j'y suis allée il y a 8 jours, elles étaient sous la tente de cette femme.
Et est-ce qu'elles sont en contact avec l'extérieur, avec, je ne sais pas, leur famille?
Alors, elles sont en contact avec leur père, c'est ce qu'elles m'ont dit au Maroc. Et elles sont, je sais, en contact avec leur famille en France, via une avocate qui s'occupe d'elle, qui s'occupe de la famille. Il faut savoir qu'elles ne sont pas, ces femmes et ces enfants, coupées de l'extérieur. Bon, y a une fenêtre sur le monde avec la télévision, mais il y a aussi des contacts avec l'extérieur. Elles ne le disent pas, mais il y a des téléphones portables qui circulent dans le camp.
Alors, de quoi est fait le quotidien de ces enfants? Il y en a des plus jeunes, j'imagine aussi. Ils vont à l'école, ils ont des activités?
Oui, ils sont tout petits pour beaucoup. On m'a dit qu'il y avait 2 heures de cours.
Par jour?
Par jour. Ce n'est pas l'idéal, mais ils ont une première activité. Et puis, ils regardent beaucoup la télé, en effet, les dessins animés. Il y a des antennes satellites, comme je vous le disais. Quant aux femmes, elles sont surtout dévolues aux tâches ménagères. Il faut manger, préparer les... laver les vêtements, etc. Et d'ailleurs, certaines me disaient regretter un peu d'avoir cette vie d'enfermement, cette vie restreinte, finalement.
Alors justement, parlons de ces adultes, de ces femmes qui ont rejoint l'organisation État islamique avec leur mari, ou pas d'ailleurs, puisque certaines se sont rendues en Syrie toutes seules. Est-ce qu'elles souhaitent revenir en France?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Certaines femmes vivent toujours dans une idéologie radicale. Elles disent avoir quitté la France parce qu'elles ne pouvaient pas exercer leur religion, l'islam, comme elles l'entendaient, et elles ne veulent pas y retourner. Elles sont dans le rejet, voire la haine de la France. Et puis la deuxième raison, elles savent que si elles sont rapatriées, elles ont des grandes chances d'aller en prison, elles ont rejoint une organisation terroriste et elles seront séparées de leurs enfants. Et ça, elles ne sont pas prêtes à l'accepter.
Et c'est le cas de cette femme que vous avez rencontrée. Elle dit avoir 7 enfants, ne veut pas rentrer et témoigne anonymement.
Non, je ne veux pas rentrer en France du tout. La France, je sais ce qu'on propose, voilà, d'enfermer les mamans, de les séparer des enfants, de les déraciner alors qu'ils n'ont plus leur père, leur frère, leur sœur. Non, si la France nous voulait du bien, voilà, ils ne nous sépareraient pas en fait. Donc non, mes enfants, ça ne les intéresse pas, et moi non plus, en fait. Quand on a assez souffert, les conditions de vie, voilà, ici, c'est 1 an, c'est 10 ans. Louange à Dieu, que voilà, que justement, on croit en Dieu. Voilà, louange à Dieu, on croit en Allah, et c'est ça qui nous permet de tenir.
Cette femme se pose presque en victime de la France. Vous avez le sentiment comme ça que certaines d'entre elles continuent d'être hostiles à tout ce que représente le monde occidental ?
Oui, il y a une sorte de victimisation, hein. C'est clair, sur certaines, enfin, j'ai certaines que j'ai rencontrées. Bon, celle-là est très radicale, hein. C'est elle qui garde les deux petites, hein, dont je vous ai parlé il y a un instant. On ne peut pas exercer notre religion, on est venu ici, on nous a bombardé à Barou, c'est un massacre, alors que... Il faut rappeler, elles n'en parlent pas, que elles ont participé à une organisation qui a commis des massacres en Syrie, en Irak, et qui a commandité des attentats, enfin, en tout cas préparé et participé à des attentats en France. Donc il y a toujours cette façon de se victimiser, ce rejet de la France, et qui continue encore aujourd'hui pour certaines.
Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui ont pris, elles, leur distance de manière plus claire avec l'État islamique et qui disent vouloir rentrer ?
Alors oui, nous avons rencontré dans ce camp de Roche deux femmes qui disent avoir abandonné toute idéologie radicale, regretté d'avoir rejoint l'organisation État islamique, et elles se disent prêtes à payer leurs dettes en rentrant pour leurs enfants, pour qu'ils aient une vie normale.
Et c'est le cas de Samia que vous avez interrogée. Il s'agit là encore d'un prénom d'emprunt, car elle aussi veut rester anonyme.
Bah bien sûr que je vais être arrêtée, ça sera normal. Et je vais assumer les conséquences de mes actes aussi. Je suis dans une organisation terroriste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Volontairement.
Non, c'est involontairement. J'ai suivi quelqu'un et je regrette beaucoup. Je regrette, mais en même temps, j'avais pas le choix spécialement. Malheureusement, nos vies, elles sont plus ou moins entre parenthèses, mais franchement, celle des enfants, moi, je trouve que c'est important, en fait, qu'ils se reconstruisent. C'est important qu'ils puissent revoir leur famille, leurs proches. Et même si on va subir un petit moment, j'espère, en prison, etc., ben, ce sera une nouvelle vie, en fait. On espère une nouvelle vie.
On espère une nouvelle vie, dit-elle. En même temps, elle sait très bien qu'elle va aller en prison. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour les femmes qui sont rentrées en juillet et à l'automne dernier. Elles ont été incarcérées.
Oui, la plupart le sont. Par exemple, dans le rapatriement groupé en juillet, les 16 femmes qui sont revenues ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ça peut aller jusqu'à 30 ans de prison. Ce qui se passe, c'est que dès qu'elles arrivent à l'aéroport en France, on les met de côté. Elles sont entendues par les renseignements français. Elles sont mises en garde à vue, elles voient, la plupart d'entre elles sont mises en examen et mises en détention.
Et que deviennent les enfants qui sont rapatriés ?
Alors eux, ils sont pris en charge par les services sociaux, hein, les services de l'aide à l'enfance. Ils sont placés en général en famille d'accueil pour rejoindre plus tard leur famille, les grands-parents, les tantes qui les attendent. Ils ont en général un droit de visite, hein, parce qu'il faut garder, avec les parents incarcérés, parce qu'il faut garder un lien, c'est important. Ils vont au parloir accompagnés, hein, c'est avec un médiateur. Et surtout, ils ont un gros suivi psychologique, parce qu'il ne faut pas oublier que ces enfants n'ont pas choisi d'aller là-bas, où ils sont nés, en Syrie par exemple, et ils ont vécu la guerre, les atrocités, ils ont été témoins de tout cela, et qu'ils sont souvent effectivement traumatisés.
Alors, on retourne au camp de Roche. Vous m'avez dit avoir rencontré une autre femme qui affirme avoir abandonné l'islam radical et qui veut elle aussi rentrer. Quel est son profil ?
Alors oui, elle n'a pas beaucoup parlé d'elle, mais elle était vraiment, avec Samia, là, qu'on a entendu tout à l'heure, apeurée, hein, parce que elle se balade en survêtements. C'est la seule que j'ai vue parmi toutes ces femmes qui sont très voilées, dont certaines même le visage. Hein, elle dit avoir abandonné une idéologie radicale et ne pas pouvoir l'exprimer parce que sa tenue vestimentaire ou ses propos ne conviennent pas aux autres. Et elle dit qu'elle est en danger là-bas avec ses enfants.
Et elle s'est confiée à votre micro. Elle dit vivre dans la peur. On l'écoute, elle aussi a tenu à rester anonyme.
En sortant, je ne sais pas, ils vont me poignarder. Je ne sais pas, ouais, je suis dans le stress, dans la peur. Ah, faut le dire, ça. Je ne suis pas tranquille, en fait.
Mais à la maison, il fait froid.
Mais mes enfants, ils sont menacés tout le temps. Ils sont insultés. Ta mère, elle est comme ça. Ta mère, c'est mécréante. Ta mère, c'est une aposta.
Des fois, il y a même des gros mots aussi.
Non, c'est dur pour mes enfants aussi, c'est très très dur.
Alors Muriel, pourquoi la France ne rapatrie pas ses femmes et ses enfants presque 4 ans après la chute du califat ?
Alors jusqu'à présent, la France a dû mener une politique du rapatriement au cas par cas. On rapatrie les enfants orphelins, les enfants dont les mères acceptent de renoncer à leurs droits. Paris a souvent invoqué des raisons sécuritaires. C'est la guerre, c'est compliqué d'y aller, mais aussi sécuritaire ici. Comment on les prend en charge ? Est-ce que ce n'est pas des bombes à retardement ? Et puis l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, disait surtout il faut les juger sur place, les crimes ont été jugés sur place, on le verra, n'est pas vraiment possible. La raison profonde, c'est que l'opinion publique française est défavorable au retour de ces personnes. N'oublions pas qu'ils sont allés rejoindre une organisation terroriste, faire le djihad, commettre des crimes en Syrie, en Irak, mais également préparer, revendiquer des attentats en France, comme par exemple ceux du 13 novembre 2015, qui, on le rappelle, ont fait plus de 100 morts. Il pourrait être dangereux de les rapatrier. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice rappelait récemment que l'équilibre à trouver était celui entre l'humanité et la sécurité.
Néanmoins, bon, il y a eu ces premiers rapatriements groupés. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux rapatriements collectifs ?
Oui, sans doute, hein, après ces deux rapatriements donc en juillet et en octobre dernier. En tout cas, c'est ce que souhaitent les familles de ces femmes et de ces enfants, les avocats qui se débattent pour elles aussi, des psychologues qui disent qu'il faut absolument rapatrier tout le monde. Il y a plusieurs raisons. D'abord humanitaires, on l'a vu, ils vivent dans des conditions quand même très difficiles. Juridiques, on ne peut pas les juger là-bas. On est dans le nord-est syrien, sous contrôle des forces démocratiques syriennes. C'est une région autonome, autoproclamée, mais qui n'est pas reconnue internationalement. Donc on ne peut pas les juger là-bas. Et puis sécuritaire aussi. Si on les laisse là-bas, eh bien, dans un environnement clos, dans un environnement hostile, ces personnes vont se radicaliser encore plus.
Alors que vous ont dit les FDLS, les forces kurdes qui gèrent le camp sur place, elles veulent se débarrasser du fardeau que représente quand même pour elles la gestion de ces milliers de personnes.
Alors les FDS, hein, les forces syriennes, démocratiques syriennes à majorité kurde, effectivement disent on a lutté contre l'organisation État islamique, on a appuyé la coalition internationale, on est venu à bout de tous ces gens à Barouz en 2019, c'était la fin du califat. Et elles se sentent abandonnées par la coalition. On doit gérer tous ces djihadistes étrangers. C'est lourd. Il y a 27 centres de détention dans le nord-est syrien. Il y a ce camp d'Al-Hol qui est effectivement très difficile. Il y a la prison d'Asaké, qui est présentée comme la plus grosse prison au monde de djihadistes, qui a été attaquée l'année dernière, il y a tout juste un an, par des djihadistes de l'extérieur pour libérer les prisonniers à l'intérieur. C'était 10 jours de combats, d'émeutes, avec des centaines de morts à la clé. Aujourd'hui, elles disent c'est compliqué de garder ces djihadistes étrangers. Il faudrait que chaque pays les reprenne.
Surtout que les Turcs ont lancé des offensives contre les Kurdes dans cette région. Ça peut avoir un impact aussi sur la gestion de ces camps.
Oui, complètement. Les FDS le disent. On ne peut pas être sur deux fronts. On ne peut pas aller lutter contre les opérations turques et puis à la fois s'occuper de garder les camps. Surtout qu'il y a eu un bombardement sur le camp d'Al-Hol ces dernières semaines qui a eu des conséquences. Et on l'a vu d'ailleurs, l'État islamique profite de ces opérations turques et du chaos qui règne pour mener des attaques. Il y a eu une recrudescence des attaques de l'État islamique, de cellules ces dernières semaines.
On n'a plus beaucoup de temps, Muriel. Alors avant de terminer, je voulais savoir s'il y avait une image ou un moment qui vous a particulièrement marqué au cours de ce reportage.
C'est l'image, hein, j'en parlais tout à l'heure, de ces jeunes adolescentes, ces mineurs isolés qui semblent complètement perdus et a priori sous emprise d'une femme radicalisée. On se dit qu'il y a sans doute urgence à les sortir de ce camp de Roj.
Merci beaucoup Muriel Paradon. Merci d'être venue en studio pour évoquer le sort de ces femmes et de ces enfants français détenus dans le camp de Roj. Vous avez réalisé d'autres reportages sur d'autres sujets lors de votre mission dans le nord de la Syrie. Ils peuvent être écoutés sur le site de RFI. Merci à Claude Battista pour la réalisation de cette émission et à Patrick Adam à la rédaction en chef. À demain. RFI.